En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus, les curieuses et les curieux. Salut à vous Thomas.
Comment ça va Sidonie?
Formidable.
Oui, en pleine forme, en ce samedi après-midi, pour réécouter certains des meilleurs moments de l'émission.
J'adore nous réécouter, vous pourriez...
un peu mégalo tout ça.
Un petit peu, ouais. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec un immense plaisir bien sûr et au programme, cher
Alors,
Thomas.
Alors, des utopistes, des marginaux, des farceurs, des farfelus comme Ferdinand Lope, Adolphe Bertrand ou encore Louis-Paulin Gagne, des noms qui ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais qui ont prétendu au poste de président de notre République française.
Et tous ces gens, ils vont entrer dans notre studio. Bah, bon courage.
Tous les uns après les autres.
Mais tout de suite, le dernier des géants, c'est James Dean.
James Dean, une belle gueule et du sex-appeal à revendre. Une carrière fulgurante. 3 films en 16 mois. Des films emblématiques.
RTL.
You say one thing, he says another, and everybody changes back again.
Et une mort brutale à 24 ans.
I love you, Jim. I really mean it.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il aurait eu 84 ans en février dernier. On a du mal à l'imaginer tant son image de jeune rebelle de 24 ans est gravée dans nos rétines. James Dean est mort il y a 60 ans, un 30 septembre 1955. Il est à l'affiche de Life, le film du réalisateur Anton Corbijn. Stéphane Boutsogman, vous êtes le monsieur cinéma d'RTL. Ce film Life raconte l'amitié entre James Dean et le photographe qu'il a immortalisé à ses débuts. Pourquoi cette série de clichés est devenue culte?
Parce que ce sont des photos qui ont été prises d'abord dans l'intimité de James Dean, c'est-à-dire dans une partie de sa famille qui vivait dans l'Indiana, à la campagne, et on le voit pas du tout apprêté, pas du tout dans le rôle de star que ces 3 films et ces 2 films posthumes ont laissé. Mais on voit un gamin, il avait 24 ans quand il est mort, donc c'est encore un tout jeune homme, à la ferme, avec les cochons, sur le tracteur. Oui. Il y a aussi une série à New York sous la pluie. Enfin, ce ne sont pas des photos glamour.
Et est-ce que c'est un symbole, James Dean, déjà à cette époque-là, donc au milieu des années 50, on a dit jeunesse rebelle, est-ce que c'est vraiment ça?
Alors, c'est en tout cas ce qu'il va incarner à l'écran dans les 3 films. Il avait fait quelques apparitions dans des films avant, mais vraiment, genre, j'ouvre une porte de dos, donc on ne l'a pas vraiment remarqué. Les 3 films pour lesquels...
Mais vous les avez retrouvés.
Mais évidemment, j'ai revu tous ces films. Alès d'Éden, La Fureur de Vivre et Géant. C'est assez troublant parce que dans ces 3 films, il est en rébellion contre quelque chose. Ouais. Soit contre la société, soit contre sa famille, soit contre le monde de l'argent, soit contre son père de cinéma, et on verra tout à l'heure que son père dans la vie, ça a été une relation extrêmement conflictuelle. Mm-hmm. Donc oui, pour la jeunesse de cette époque-là, on est milieu années 50, hein, c'est 10 ans après la guerre, il n'y a pas eu tout ce qui sera autour de mai 68. La jeunesse américaine, où il découvre un gars de son âge, qui incarne des jeunes qui osent aller en rébellion contre un système, et c'est vraiment quelque chose qui va lui rester. Sa disparition tragique, en plus, le laissera dans le marbre, comme ça.
Mm. Alors on va raconter son histoire, bien entendu, Stéphane Boutsog, vous parlez de jeunesse américaine. La jeunesse de James Dean, elle se fait dans l'Indiana, avec une famille de quel type? Soudée? Alors, aimante? Heureuse?
C'est très compliqué la jeunesse de James Dean. Apparemment, c'est pas un enfant qui était vraiment souhaité. Sa mère tombe enceinte, son père à l'époque l'accepte évidemment. C'est pas un couple extrêmement soudé, ça se passe pas bien. Puis il y a un drame évidemment effroyable dans sa vie, c'est qu'à 9 ans, il perd sa maman d'un cancer et il va dès ce moment-là reprocher à son père finalement de ne pas l'avoir mis au courant. Le cancer, c'est un cancer du col de l'utérus, c'est encore extrêmement tabou dans la société américaine à l'époque, et son père va taire cette maladie qui est pas une maladie honteuse mais une maladie dont on parle pas beaucoup, qui touche à l'intimité. Et donc dès ce moment-là, James Dean, qui était couvé par sa maman, vraiment protégée, c'est elle qui l'a encouragé à fréquenter les arts, à faire du sport, voilà, elle l'a aidé. C'est évidemment un drame absolu dans sa famille. Son père en plus va l'exiler dans sa famille qui se trouve vraiment au fin fond de l'Indiana, une famille très religieuse en plus, de Quaker. Ça va se passer moyennement parce qu'il est très vite passionné par le théâtre. Il va revenir voir son père qui aura déménagé ensuite du côté de Los Angeles, et ça se passera pas bien parce que James Dean va se passionné pour le théâtre, et là aussi oui. c'est pas très propre, avec en plus, je crois, dès cette époque de la part de James Dean, d'un point de vue intime, une sexualité qui aussi entre garçons et filles, et ça passe encore plus mal évidemment dans ce milieu et dans sa famille.
Mais il va faire heureusement la rencontre, la connaissance d'un dénommé Roger Brackett.
Oui.
Qui est-il d'ailleurs?
Alors, Roger Brackett, c'est un producteur de shows radiophoniques, et quelqu'un qui met aussi en scène les publicités. À cette époque-là, les publicités, c'est tout c'est une affaire, c'est pratiquement un spectacle. Et il va craquer sur James Dean, il va craquer physiquement aussi sur James Dean.
Il va tomber amoureux de James Dean.
Oui, et puis ça va être aussi assez réciproque. Et James Dean va comprendre aussi, c'est la réputation qu'il aura longtemps, Hollywood, de comprendre qui peut lui servir et à quoi, que ce soit des filles ou des garçons. Et avec cet homme-là, va se nouer une relation amicale, une relation sexuelle aussi. Ce sera aussi un mentor, quelqu'un qui lui apprend les arts, qui lui apprend le théâtre. Et il va beaucoup l'aider parce qu'il va le faire tourner dans des pubs.
Il fait quelques apparitions télé aussi, James Dean.
Oui, il va tourner dans quelques petites séries, toujours grâce à ce Pygmalion là, dont on parlait tout à l'heure. Il fait partie des jeunes premiers de l'époque. Il y a aussi Paul Newman. Il y a toute une génération qui naît vraiment à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a de l'ambition ou même de l'opportunisme, pour être un peu plus négatif, dans cette jeune carrière de James Dean?
Alors moi, c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le film qui s'appelle Life d'Anton Corbijn. C'est qu'on montre, oui, l'ambition, l'envie de réussir et puis une certaine... Je pense qu'il était aussi assez persuadé de son talent. Enfin, il y avait aussi une histoire d'ego qui était importante. Par contre, ce qu'on sent très bien dans le film, ce qui lui fait peur, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire d'être suivi par la presse. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il est réticent sur la séance photo au début. Mmh. Oui, il fréquente notamment Elizabeth Taylor. Enfin, c'est un milieu qu'il connaît. Il sait très bien qu'il y a un revers à la médaille et qu'il va être traqué s'il devient une star. Donc on le voit vouloir réussir, oui, mais essayer de freiner un peu sur la médiatisation.
Et subir la pression du patron de la Warner.
Puis il était bien gentil, t'es sous contrat, la promo tu vas la faire, et sinon tu tournes pas le film d'après. Et finalement il dit oui.
Il va tenter sa chance à Broadway.
Oui, mais c'est là d'ailleurs que Elia Kazan va le remarquer pour lui faire tourner.
Il joue dans une comédie musicale, c'est ça ?
Oui, une comédie musicale, et il a un vrai talent, mais ça, il le fait depuis l'enfance. Et là, on revient à maman, c'est sa mère qui, dès l'enfance, lui fait jouer des pièces au collège, lui fait jouer des pièces au lycée, et il va recevoir des prix.
Donc il joue au théâtre, il va jouer dans des séries, et on dit que c'est un petit peu une tête de mule, James Dean.
Bah oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il vient pas aux répétitions tout à fait. Alors, il a beaucoup de talent, donc même si c'est pas trop son texte, ça passe. Puis ça a pas l'air de l'amuser tant que ça, c'est-à-dire qu'il fait le métier, mais oui, il y va un peu entrer dans des pièces qui lui vaudra une réputation, si vous me permettez, de chieur quand même assez au début. Oui.
Mais il se forge une image de rebelle. Il a quoi? Il a un exemple en tête?
Oui, c'est Brando. En fait, l'exemple est pour toute cette génération-là, c'est Marlon Brando, et c'est pour ça que la connexion avec Elia Kazan marche bien. C'est que Kazan repère aussi chez James Dean les mêmes caractéristiques qui avait eu chez Brando, qui avait électrisé vraiment la jeunesse de cette époque-là.
Stéphane Boutsock, on dit que James Dean se fait remarquer dans une pièce française. C'est L'immoraliste de Gide.
Ouais. Oui. Ben, il a un rôle extrêmement ambigu. Il joue le rôle d'un petit Marocain homosexuel. Donc, il le fait extrêmement bien sur scène et il est remarqué, évidemment, parce qu'il est criant de vérité, là aussi. Et oui, c'est une pièce, alors c'est ce qu'on peut appeler un peu le off-Broadway, c'est des pièces un peu underground. Dans tous les cas, c'est les pièces que tous les artistes vont voir, tous les producteurs, tous les cinéastes, et Kazan aussi voit cette pièce et se dit, là, il y a évidemment quelque chose.
Mais vous décrivez donc quelqu'un de talentueux, de précoce, puisque tout petit il reçoit des prix. Est-ce qu'il a aussi appris son métier d'acteur? Il y a l'Acteur Studio, exemple, que tout le monde connaît.
Mais il va s'inscrire à l'Acteur Studio.
D'accord,
et
okay.
Bizarrement, ça ne va pas trop bien se passer non plus.
C'est le côté bad boy qui revient, c'est ça?
Oui, avec Lee Strasberg, qui est le grand patron de l'Acteur Studio, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne va pas en cours, et il va même se plaindre, il va dire, mais ce n'est pas possible. Les méthodes de Strasberg, c'est du viol mental, c'est de l'acharnement, ça marche pas, et il va faire que passer à l'Acteur Studio, vraiment. Mais il y va aussi parce que Brando y était allé et que, encore une fois, c'est son
méthode. Mais c'est un moule, l'Acteur Studio?
Oui,
Strasberg
avait aussi bossé avec Marilyn, avait été très très critiqué pour tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait presque un côté gourou d'après ceux qui ont fréquenté cette école-là.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
Vous êtes chez vous sur RTL.
60 ans après sa disparition en pleine jeunesse, James Dean continue d'intéresser les cinéastes et les acteurs d'aujourd'hui.
Je revivrai à travers toi, la légende de Jimmy.
Life, le film d'Anton Corbijn, évoque la relation complexe entre deux artistes jeunes et inconnus, tous deux en quête de reconnaissance.
Qui était vraiment James Byron Dean?
Sidon Bonnec, Thomas Hugues.
Qui était vraiment James Byron Dean? On est en train de répondre à la question grâce à Stéphane Boutsock. On vous compte ce destin brisé d'une star hollywoodienne à l'occasion, vous l'avez entendu, de la sortie du film Life, qui raconte cette rencontre entre James Dean et un photographe tout jeune, Denis Stock. Est-ce qu'il y a, alors moi j'ai vu le film, donc je connais la réponse, il n'y a pas d'histoire d'amour entre les deux?
Non, non, et le film ne laisse planer aucune ambiguïté. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment ça, je pense qu'il n'y a pas eu de relation entre les deux hommes, ce qui n'enlève rien au passé, à la sexualité double de James Dean, mais en tous les cas,
il le drague à peine au début du film.
Bah, c'est-à-dire qu'on sent, oui, que, mais chacun drague l'autre parce que le photographe a absolument besoin de James Dean. Oui, et puis James Dean comprend aussi que ça peut lui servir un moment. Donc,
il était bisexuel, James Dean.
Ah, bah alors oui, c'est la thèse officielle. C'est-à-dire qu'on lui connaît des fiancés EES, notamment Ursula Andress. Il a eu quelques jolies filles. Pierre Angeli, dont on parlera peut-être. Et puis oui, on sait que quand il revient à Los Angeles au tout début de sa carrière, il a un amant. On a parlé de ce Pygmalion tout à l'heure qui était aussi un mentor et un amant.
Stéphane Boutsock, James Dean, c'est trois films qui l'ont rendu extrêmement célèbre, qui fait qu'il est arrivé jusqu'à nous. C'est unique dans l'histoire du cinéma?
Ah, je crois, oui. Ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que non seulement les films ont été des succès, il y en a deux qui sont sortis après sa mort, en tous les cas en France. J'ai regardé tout à l'heure, ce sont des films qui ont fait 4 millions d'entrées chez nous. Mais oui, c'est assez unique parce que Marilyn est morte, elle aussi, très, très jeune, dans des conditions dramatiques, mais elle avait une vraie, vraie filmographie importante. Lui, en effet, vous le dites, hein, trois films qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques et quelques-uns dans ces trois comme des chefs-d'œuvre, vraiment.
Pourquoi et comment en trois films il devient aussi célèbre, James Dean?
Ben regardez-les. Revoyez-le. Non, mais moi, j'ai un petit peu révisé, donc j'en ai revu quelques extraits. Il y a une présence qui est juste hallucinante, mais il apparaît. Vous savez, il y a des acteurs comme ça qui, ou les actrices qui chopent la lumière, vous les mettez devant une caméra, il se passe quelque chose. C'est ça, James Dean. Puis il y a le phrasé, il y a l'attitude, il y a la provocation, il y a les thèmes des films aussi, il y a ses partenaires. Enfin, il y a une alchimie de choses qui font, oui, que ces films sont remarquables et encore remarqués aujourd'hui.
L'un de ses premiers films, c'est À l'Est d'Éden, d'Elia Kazan. Pourquoi il choisit James Dean pour ce film?
Parce que Kazan a fait notamment tourner Brando et que il a le pif pour repérer les animaux, les animaux, les bêtes de scène, les bêtes de cinéma. Et je crois qu'il a été saisi tout simplement parce que dégageait James Dean et il avait conscience qu'il pourrait très bien incarner ce jeune homme qui, dans le film, et puis parallèle avec la vie, était en butte à l'autorité de son père et se rebellait. Voilà, il a repéré le rebelle.
Mais quand James Dean arrive sur le tournage, c'est un inconnu?
Quasiment, il a fait deux, trois petites apparitions dans des films. Oui, il n'est pas du tout connu. C'est un vrai pari.
Oui, mais il n'a pas beaucoup d'argent et donc il débarque à Los Angeles. Il vit comment?
Alors, il n'a pas de sous. Il vit en partie dans les décors du film. Ça fait partie, vous savez, de la mythologie de l'acteur.
Je
vis mon rôle, etc. Il emprunte aussi de l'argent. Alors, ouais. Il a quelques camarades qui peuvent l'héberger aussi. Mais oui, c'est vraiment le petit gars qui arrive de sa campagne. C'est vraiment ça. Sur lequel pas grand monde parie, mis à part Elia Kazan et un petit peu la Warner, et qui va, oui, s'en sortir.
Donc, il joue James Dean le rôle dans À l'Est de l'Éden. Quelle est son histoire? Quel est ce personnage?
Ce personnage, c'est un jeune homme auquel vraiment la jeunesse américaine et puis par ricochet après la jeunesse européenne et notamment française va pouvoir s'identifier parce que c'est un jeune homme qui dénonce en fait le système. Et encore une fois, ces années-là, c'est des années de la reconstruction, c'est des années extrêmement pudiques, pudibondes, pieuses, où la religion a beaucoup d'importance, où on respecte la famille, on respecte l'image du père. Et lui, il arrive et il va dynamiter tous ces codes. Et notamment Elvis Presley, qui également à ce moment-là commence à se faire connaître, dira vraiment que ça a été aussi quelque part un modèle et une source d'inspiration, vraiment quelqu'un qui osait se rebeller contre un système.
À l'Est d'Éden, on écoute tout de suite un extrait du film.
Son, I'd be happy if you'd give me something like, well, like your brother's given me, something honest and human and good. Don't be angry, son. If you want to give me a present, give me a good life.
Pourquoi elle est importante cette scène? C'est une scène entre
le fils
et son père. Donc on est au cœur de la relation conflictuelle entre les deux, c'est ça?
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas que le père supplie, mais le père dit à son fils, voilà, au moins si tu peux faire quelque chose pour moi, fais-moi une belle vie. C'est ce qu'il disait. C'est-à-dire, voilà, rends-moi fier.
C'est le plus beau cadeau que tu me feras.
C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Sauf évidemment que le fils a aucune intention de suivre ce que veut faire son papa, ce que veut dire son papa.
Est-ce que c'est ce petit côté voyou, rebelle qui a séduit Pierre Angeli, qui est l'appartenant à l'écran de James Dean dans À l'Est de l'Éden?
Alors oui, c'est aussi ce qui va casser le couple. Mais oui, il y a ce côté blouson de cuir, cheveux déjà quand même un petit peu longs pour l'époque, attitude. Alors, ça colle pour elle, c'est-à-dire que c'est une vraie histoire d'amour. D'ailleurs, je pense que ça sera quasiment la seule très très belle histoire d'amour de la courte vie de James Dean, mais avec la maman de Pierre Angeli, qui est quelqu'un qui est très croyante, pour qui les conventions ça compte, pour qui les codes ça compte. Ça ne passera jamais, et elle va tout faire, et elle va réussir d'ailleurs pour casser ce couple, et c'est Pierre Angeli qui va partir pour se marier quelqu'un d'autre, qui va briser le cœur de James Dean.
Et dans le film Life, il y a une scène qui est très frappante, où James Dean est à une conférence de presse.
Et on lui apprend
que Pierre Angeli vient de se fiancer. Ça s'est vraiment passé.
Ça s'est passé comme ça.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
James Dean, l'étoile filante d'Hollywood, s'est éteinte il y a tout juste 60 ans. Et avec notre invité Stéphane Boutsock, on retrace son destin jusqu'à ce fameux 30 septembre 1955. Stéphane Boutsock, est-ce que ce film, À l'Est d'Éden, a rendu vraiment James Dean célèbre dès sa sortie?
Alors, oui, parce que le film est un succès, mais au-delà du succès public, c'est l'impact aussi que ça va avoir sur la réputation et le côté bankable, comme on dit aujourd'hui, de James Dean. C'est-à-dire que Warner, qui a misé quand même de l'argent sur lui, qui a investi sur un poulain, se rend compte que non seulement il est bon à l'écran, mais qu'aussi les gens, apparemment, commencent à se déplacer pour le voir, et puis qu'il peut se passer quelque chose. Et à partir de là, oui, Jack Warner, on le voit dans le film, malgré tous les défauts que ce petit con de James Dean, comme il dit, peut avoir, ouais. Il se dit qu'il y a peut-être quand même un cheval sur lequel miser.
Ça va au-delà du bon acteur, en fait.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il représente quelque chose à partir de ce moment-là.
Et puis c'est là que les studios vont commencer à recevoir des caisses de courrier, c'est ça? Des lettres de filles?
Oui, je crois que c'était plusieurs milliers de lettres à un moment par semaine. Oui, c'est pas encore une idole, mais en tous les cas, ça fait partie des jeunes premiers que les filles remarquent et à qui elles écrivent en espoir d'avoir une photo, peut-être, dédicacée.
C'est un comédien fougueux, rebelle, et dès qu'il commence à gagner un petit peu d'argent, il va s'acheter des motos, des voitures de course, j'imagine au grand désarroi des producteurs.
Bah oui, c'est-à-dire que je crois qu'avec un de ses tout premiers cachets, quelque chose comme $800, il s'achète une Triumph, donc déjà une voiture qui n'est pas une voiture de papa, quoi, ce qui est une voiture déjà avec l'idée de rouler vite, mais c'est un fondu de sport, hein. Il a failli être dans sa jeunesse, en tous les cas, il a fait du baseball, du basket, il voulait être entraîneur même de sport, donc il adore ça, il adore la compétition, et puis il adore la vitesse, donc oui, mais...
Il n'a pas le droit d'en faire.
Bah non, logiquement, la Warner, par contrat, lui interdit de participer aux courses, et il y a des recommandations, parce qu'il a quand même pas mal d'amendes, il a pas mal de contraventions, il adore rouler à toute blinde la nuit, pratiquement phare éteint dans le rue de Los Angeles. Il y a presque un côté d'ailleurs suicidaire, hein, dans le personnage, en tout cas de course contre la vie, pratiquement, et Warner essaye vraiment de minimiser ça et de l'empêcher de faire la bêtise.
Et pourtant, ce 30 septembre 1955, c'est bien une course automobile, oui, qui va se rendre, James Dean.
Il va à Salinas, oui, en Californie, il a décidé, donc il est sous contrat, hein, il vient de terminer à peine ce qui sera son dernier film.
Géant,
et il décide d'y aller. Il emmène son mécanicien avec lui dans sa Porsche, cette voiture qu'il appelle Little Bastard, qu'on peut traduire par petit con, en fait. Il l'a emmené avec lui pour participer à la course. Il sait très bien qu'il fait une bêtise. Ouais. Et en plus, vous savez que c'est terrible, parce que sur la route de cette course, quelques heures avant de se tuer, il est arrêté par la police et il a une amende pour vitesse excessive. Ça, c'est quand même un truc du destin sur lequel, malheureusement, il tilte pas.
Mais il n'a pas entendu ce signe du destin.
Les ironies du sort, il venait de tourner un spot pour la sécurité routière où il donnait des conseils de prudence. On écoute.
Jimmy, I'd like your opinion about fast driving on the highway.
Alors, on va vous le traduire. Jimmy, j'aimerais pour votre opinion sur la conduite rapide sur l'autoroute. Vous pensez que c'est une bonne idée?
J'avais l'habitude de conduire vite et de prendre des risques inconsidérés. Et j'ai commencé la course automobile. Et maintenant, je conduis sur l'autoroute avec beaucoup de prudence.
Ça, c'est pas mal. Et ensuite, la conclusion. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes conducteurs? Qu'est-ce qu'il dit, James Dean?
Take it easy. Soyez prudent sur la route. La vie que vous sauverez sera peut-être la mienne.
One more question. Do you have any special advice for the young people who drive?
Take it easy driving. The life you might save might be mine.
Ça, c'est génial, parce qu'on a la voix de James Dean, effectivement traînante comme ça, avec
l'incidence qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on sent bien dans le film.
Et donc, il n'applique pas les conseils qu'il donne aux jeunes, hein, manifestement. Qu'est-ce qui se passe ce 30 septembre 55? C'est en allant à cette course automobile qu'il se tue? C'est pas
en allant à cette course, en fait, il va arriver à une intersection où la route sur laquelle il est croise une autre route, et il s'arrête, hein, il grille pas le stop, il regarde, sauf que la route est bosselée, si vous voulez, et à ce moment-là, ça se joue peut-être à 30 secondes, à ce moment-là, il ne voit pas une autre voiture qui est conduite par un jeune étudiant qui arrive, évidemment, il s'engage, et le choc va être, je crois, autour de 90 km/h quand même, parce qu'il redémarre, et la Porsche, je pense qu'elle a un bon coup d'impulsion au démarrage, et le choc est effroyable. Le gars qui est avec lui, le mécanicien, est éjecté de la voiture, lui, il meurt sur le coup, en tous les cas, c'est ce que les policiers ont dit après, et l'étudiant qui le tue, lui, va survivre, et évidemment est totalement dévasté, parce que James Dean est une idole pour lui, c'est-à-dire qu'il l'a vu, évidemment, il sait, il a vu ses films.
Il avait un nom incroyable, cet étudiant,
oui.
Donald Turn the speed, c'est ça?
Bah oui, c'est-à-dire que si on décompose, turn, tournant et speed, vitesse. Enfin, c'est vrai que si on analyse tous les signes, si on y croit, c'est effroyable jusqu'au bout.
En fait, Stéphane Bustock, il y a juste tous les ingrédients pour créer une légende.
Oui, exactement. Bah, ça, elle commence là, oui, la légende. Et en plus, moi, je me souviens, étant gamin, avoir eu des bouquins, il y a des photos qui sont prises très, très tôt parce qu'il y a des policiers qui ne sont pas très, très loin et il y a des photos de l'accident. Alors, on voit l'état des voitures, c'est une épouvante. Ouais. Et il y a des photos qui sont restées de ce moment-là. Et notamment, moi, je me souviens d'une photo de l'étudiant qui est totalement hébété encore des heures après au bord de la route. Il pleure. Il a compris qu'il a tué James Dean.
Mais ça veut dire que James Dean, alors qu'il meurt le 30 septembre 1955, il devient une icône dans les semaines qui viennent ou ça va quand même prendre quelques années aux États-Unis, en France?
C'est-à-dire que quand il meurt, le film géant vient à peine d'être terminé. Je crois qu'il n'a pas eu le temps encore de faire tous les raccords voix. Donc, on va en plus utiliser
une doublure.
Quand Géant va sortir, les fans de James Dean vont voir l'ultime film, malheureusement, et puis le public aussi a été sensibilisé. Donc le film, évidemment, est un très gros succès. Il est nommé aux Oscars à titre posthume, ce qui arrive évidemment extrêmement rarement. Donc la légende, voilà, elle continue dès ce moment-là aussi.
Merci beaucoup Stéphane Bustock.
Merci à vous.
On vous entend dans la curiosité, bien sûr, mais vous n'êtes pas qu'à nous. On le sait, on vous entend tous les matins dans Laissez-vous tenter. Entre 9h et 9h30 sur RTL, à Yves Calvi, il va pas être content si on vous pique.
Il est prêteur.
Oui, bon, d'accord.
Merci Stéphane.
Merci.
Bonne soirée.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.